Bienvenue à Polysécur. Cet épisode, je suis avec Vincent.
Salut!
Prends un peu de temps à unmuter. Il est un peu rouillé, là, je trouve. Famous plug, s'en vient le Sécur 2021 qui va être annoncé bientôt. Les sites vont être mis à jour prochainement. Ça va être organisé le 15 avril. Sinon, on est toujours en COVID. Malheureusement, à la date de l'enregistrement, on vient d'annoncer que Noël est annulé. Fait que pour une petite pluie l'année passée, on a annulé l'Halloween. Puis cette année, à cause de certaines habitudes, les gens ont un peu de misère à respecter. On retrouve à fermer Noël. Donc, s'il vous plaît, lavez les mains, respectez la distanciation, respectez, mettez les masques. Ça va éviter d'autres épisodes plates de fermeture d'événements où on a besoin de voir tout notre monde. Et commençons plein dans les nouvelles. La première, puis je pense que vous ne serez pas beaucoup étonnés là, que les cybercriminels s'attaquent ardemment aux entreprises. Autant Vincent puis moi, on est dans ces univers-là où on se retrouve dans le côté défensif, où justement on se défend contre ces gens un peu malveillants qui essaient de tirer de profit du contenu des entreprises. L'essentiel de l'article qui est mis dans les show notes là, fait une grande historique de ça, de partir comme ce qu'ils font, la durée de ça, puis ça nous rend essentiellement un rappel. On passe pas énormément de temps sur ce nouvel ordre en tant que tel, pour un peu d'opinion, que il y a de l'argent, c'est des transferts de richesses immenses. La quantité d'argent qui est volée par les cybercriminels à l'heure actuelle est immense, ça n'a juste aucun sens. On parle de trillions de dollars qui s'en vont, qui disparaissent dans le vol à l'heure actuelle. Sont toujours, c'est vraiment une business. C'est ça qu'il faut voir aussi, il faut changer un peu notre mindset. C'est vraiment une business. Ils sont là pour faire de l'argent, pour de vrai. Et ils vont prendre les moyens nécessaires pour y aller. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, ils ont même eux autres commencé à utiliser toute l'intelligence artificielle pour aider à accélérer l'extraction d'argent des entreprises par la malveillance. Donc, on est vraiment dans un univers complètement autre qui est un peu, qui nous paraissait de la science-fiction, mais dans lequel on continue à s'enfoncer et nous, comme défensifs, on se défend avec nos cuillères puis nos couteaux à beurre quand on a des mitraillettes puis des robots de l'autre côté qui s'en prennent un peu à nous autres. J'aime bien le sourire de Vincent, c'est celle-là. Des fois, je me sens un petit peu que je m'en vais à la guerre avec une cuillère, mais des fois, je trouve ça un peu difficile, là. Certaines journées, là.
Ben, écoute, juste pour ton analogie, là, dans le temps où il n'y avait pas de cyber, la mitraillette serait relativement efficace. Là, on parle d'un clavier sans quatre touches, là. Ça fait beaucoup de balles, mais c'est un petit peu plus tough présentement que juste d'embarquer dans la tranchée, viser dans la même direction que tes chums. S'il vous plaît, on vise dans la même direction, puis que le boss donne la bonne orientation, autrement dit, on n'a pas besoin de boussole pour viser, c'est là-bas, là. Le danger là-bas, on vise là-bas, merci patron. Là, c'est un monde où il n'y a pas de points cardinaux, il n'y a pas de... La source est difficilement identifiable dès le début, donc nos 104 touches, on a 10 doigts, 30 mots minutes, hein, je fais une petite analogie ici, ça prend des orientations claires, puis c'est l'avantage que les personnes malveillantes ont présentement, c'est qu'on n'a même pas besoin de nous désorienter, c'est qu'on sait très bien que avant d'être en mesure de bien les cibler, nous sommes désorientés, point barre.
Ouais, il y a un peu de facilité déjà en partant sur ce genre de choses-là. On va enchaîner sur, dans le fond, ces deux nouvelles qui sont un peu similaires, mais dans ce cas-ci, dans un contexte plus résidentiel, puisqu'on est tous rendus maintenant, la majorité des gens en télétravail, sauf quand on a des pannes d'internet à la maison, c'est le seul moment où on s'entoure au bureau. Hein? Fait que sinon, on est dans la maison. C'est le seul prétexte qui fait que tu peux aller au bureau à l'heure actuelle. Ce qui fait que, essentiellement, les cybercriminels ont changé leurs approches. Donc, ils visent beaucoup les gens en télétravail. Ça, c'est une chose. Puis, il y a de plus en plus de rapports qui mentionnent ce genre de choses-là. Donc, c'est une réflexion différente à avoir. Donc, maintenant, et puis d'ailleurs, les réseaux domestiques sont fondamentalement moins sécurisés que les réseaux d'entreprise. Donc, c'est un vecteur intéressant pour les gens défensifs de prendre en considération. Puis ça, il y a des axes. Puis là, c'est, là, on arrive dans des zones où on veut permettre les gens de travailler en télétravail, souvent sur du BYOD en plus, parce qu'on veut offrir une souplesse supplémentaire. Mais en même temps, on est sur des équipements pas de confiance en extérieur des réseaux d'entreprises dans lesquels ils sont plus confiants. Fait que les malveillants l'ont compris. Puis l'autre nouvelle qui fait référence à ça, puis celle-là, ben, c'est plus une statistique intéressante, c'est qu'il y aurait plus qu'une centaine d'attaques, cyberattaques, sur les résidences à tous les mois. Fait qu'on est réellement ciblé, c'est qu'il y aurait plus que trois attaques par jour qui sont faites sur les IP résidentielles. Donc, nos adresses à la nos connexions internes à la maison sont ciblées de façon très, très certaine et ils s'intéressent vraiment au fait que maintenant, on est beaucoup plus susceptible à ce genre de choses.
OK. Juste une petite question comme ça. Je ne veux pas. C'est pas ma force, là, le red team, le blue team, etc. Moi, je suis plus dans le reporting, le risque, la gouvernance. Est-ce que tu es en train de dire que les plages d'adresse, parce que je le sais que les plages d'adresse d'un pays à l'autre, il y a une forme de réservation, etc. Es-tu en train de donc là, ce que j'apprends, c'est qu'en plus, le résidentiel commercial, il y a une forme de définition qui est déjà connue, et puis c'est probablement ces grappes d'adresses-là sur lesquelles les attaques sont plus fréquemment produites ces temps-ci. C'est tout ça que je suis en train de comprendre?
Bon, je ne sais pas là, à quel point ils ont ces bases de données. Je sais que ces bases de données existent. Du moins pour les grands, comme les grands fournisseurs infonuagiques, toutes leurs plages IP sont connues. C'est Amazon, Microsoft, Google. Fait qu'ils connaissent toutes les plages, puis sont quand même assez massives ces plages-là parce qu'ils consomment beaucoup de IP pour leurs services infonuagiques. Là, il y en a plein d'autres. Puis ensuite, il y a des bases de GeoIP, puis on est déjà capable d'avoir de localisation sur les adresses IP. Fait que tout ça réuni, j'imagine qu'ils doivent pouvoir arriver jusqu'au fait. OK, ça, c'est une plage qui est typiquement résidentielle. Ça, c'est une plage qui est typiquement commerciale. Puis, si on fait un peu de reverse DNS, des choses comme ça, c'est juste de voir chez Bell Vidéotron, comme ça, des plages sont typiquement des plages résidentielles, sont faciles à repérer. Puis ensuite, tu fais de l'amalgame avec Arin, avec toutes les informations qui sont disponibles dans l'OSINT. Puis, c'est pas très difficile, fait que ça devient des sites beaucoup plus attrayantes à ce moment-là. Même Shodan doit être une source infinie d'informations sur ce genre de choses-là. Ouais.
Tu viens de mentionner un terme intéressant. GeoIP. Oui. GeoIP, il y a beaucoup de fournisseurs, d'un point de vue indicateur marketing, qui aiment justement avoir la géolocalisation de l'adresse IP qui consomme leur service. Il s'agit que les logs soient mal configuré, en fait, la conservation des logs soit mal sécurisée. Et puis, tout bonnement, il y a une des plages d'adresses. On ne veut pas connaître le destinataire, mais on a des plages d'adresses qui deviennent à ce moment-là disponibles par géolocalisation d'IP. C'est vrai, j'ai vu ça. Même, je suis un grand fournisseur. J'ai bonne gestion des logs, mais des logs extrêmement bavards, même de façon native, justement. C'est vrai, c'est une très belle source d'information.
Oui. Fait que, puis ça, ben, j'imagine que les malveillants, depuis le temps, ils ont déjà toutes nos NAS. J'imagine qu'ils ont réussi depuis longtemps à trouver nos adresses IP aussi. Hein. Fait qu'ils doivent pouvoir déjà trouver ces informations-là. Puis, comme c'est mentionné, ben, maintenant, il y a du AI qui cherche. Fait qu'ils doivent faire toute la corrélation en amont, puis ensuite commencer à cibler. Puis, de toute façon, ben, ils savent qu'en résidentiel, ben, tu vas trouver des modems Linksys, plus tu vas trouver des Netgear, tu vas trouver toutes les catégories résidentielles, domestiques. Pour les produits qui sont face à Internet. Puis là, ben, je peux pas espérer que mes parents puissent bien configurer leur Internet. Il faut être réaliste aussi. Là.
Non, mais il n'y a pas juste ça.
Plus habile non plus.
Il n'y a pas juste ça. C'est même pour nous autres. C'est de prendre le temps d'aller voir la version du firmware pour le mettre à jour, qui est déjà une opération, je dirais pas complexe, mais tu viens de mentionner, monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'est dans les instructions. Oui, c'est dans le livret. Est-ce que les gens lisent les instructions? À part pour le char, c'est ça qui est étrange. On lit les instructions du char. Un char, c'est à quatre roues, une pédale, un volant. On veut juste pas faire d'accident. Oui, il y a de la maintenance, etc. Mais
ouais, mais il y a tellement de pitons dans un char maintenant que tu peux lire le manuel avant de partir. C'est comme un micro-ondes. Tu sais pas comment il marche ton char. Faut que tu prennes 10 minutes pour comprendre où les pitons pour faire actionner les clignotants. Ouais. Clairement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas découvert où était où leur manette de clignotant, par exemple. Ils n'ont pas lu les instructions.
Puis un routeur, les gens ne le soupçonnent pas, mais il y a un petit OS qui roule là-dedans, un petit OS propriétaire ou un Linux. Ça se met à jour, ça, une fois de temps en temps. Là. Le routeur sortira pas il n'y a pas une main qui va sortir derrière le routeur avec un marteau qui va vous taper sur le gros orteil en disant « Hey, j'ai un firmware à jour, là, me mettrais-tu à jour? » Puis déjà là, rentrer dans la configuration pour le mettre à jour, oui, monsieur, madame, tout le monde est capable de le faire. Est-ce que c'est l'automatisme que les gens ont? Mais non, c'est ça qui est malheureux. C'est du fail by design. Ben, en fait, c'est du fail par... Du fail per use, tout simplement, là, c'est de la consommation défaillante.
De toute façon, qui a mis à jour le firmware de leur télévision à la maison? T'sais? C'est même moi, je fais. Toi, tu l'as fait?
Oui, je l'ai fait 3 fois. Après 2 ans, Samsung m'a dit, oui, j'ai une Samsung. Samsung m'a dit, le service est terminé. Ben, c'est un consommable, une télévision. Là, hein? Au bout de deux ans, là, Au bout de 2 ans, là, quand la garantie est terminée, la majorité des TV crampent là, le fournisseur offre au moins une garantie de 2 ans. Au bout de 2 ans, quand sa TV, tu as branché ta TV sur Internet, tu vois le message que le service s'arrête dans X semaines, il n'y a plus de firmware après. Là. Ça veut dire, fais ta mise à jour, puis enlève le câble RJ en arrière. Là. C'est fini, là. Tu n'envoies pas ta TV sur Internet après, là. Achète un Apple TV, achète un Chromecast, achète une bébelle à 30$, puis ça va bien marcher, là.
Ouais,
mais maintenant, la TV, c'est ça.
On est rendu à un point, il faut mettre notre TV à jour. Puis on va prendre sur le bord de mettre nos frigidaires puis nos poêles à jour aussi. Là. Mais tu sais, c'est pas dans la pensée collective de faire ce genre de choses-là. Puis tu sais, même, puis le routeur, c'est plus évident qu'une télé, puis les gens ne font pas plus. Ouais. Puis à la limite, c'est pourquoi les gens le feraient aussi.
Ah oui, t'as raison. Ah oui. T'as raison.
Fait qu'on est dans un contexte où les gens sont. On leur met dans les mains quelque chose qui est peut-être trop puissant, puis qu'il faudrait que les. Peut-être que quelqu'un intervienne, on avait parlé.
Ben.
Que ça se mette à jour.
Est-ce qu'on pourrait considérer à ce moment-là que tout ce qui est domestique, routeur, firewall, access point, ça devient du IoT au final?
Oui.
Ça se limite à du IoT. C'est du IoT, point final. Mettez vos trucs à jour. Le IoT, déjà, sort déjà avec une faiblesse en partant. C'est pour le consommateur, monsieur. Le consommateur qui ne veut pas se casser la tête. Tu sais, quand j'ai acheté mes bulbs Hue de Philips, là, mes lumières, je m'en souviens encore, après avoir déballé la boîte, 4 minutes plus tard, l'application sur le téléphone s'allumait, là. Je trouvais ça très plaisant, là. Mais, tu sais, communication Zigbee, c'est branché sur le Wi-Fi, etc., etc. Mais la facilité d'interconnexion, votre routeur, c'est la même affaire. La première page, c'est pas compliqué. Mot de passe admin. En fait, nom d'utilisateur admin, mot de passe rien, ou vice-versa. Nom d'utilisateur rien, mot de passe admin, ou admin. Pas compliqué, il y a 3 combinaisons. Première affaire qu'on vous dit, changez le don, le mot de passe. En fait, je pense qu'il ne propose même pas. C'est ça le hic. Il ne propose même pas.
Dans les versions modernes, oui, les plus vieilles, là, ça doit faire longtemps que tu vas jouer dans un routeur, puisque la version moderne, même tout l'oblige. Mais, tu sais, l'utilisateur étant ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un mot de passe facile. Là. Il ne faut pas se barrer non.
Moi, j'ai acheté un firewall, puis je le mets à jour, puis j'ai installé une version, on va dire, trafiquée, qui a été faite du Linux, pour avoir des fonctionnalités de plus, que je trouve intéressantes. Ça veut dire que je peux plus jouer avec. Mais mon mot de passe, il est gros, il est long, il est laid, il est sale.
Ben, c'est ça, mais à la limite, il faudrait ça peut-être avoir pour réfléchir de façon massive qu'on ait des formes de YubiKey ou de clés comme ça qui feraient comme ça. Tu arrives dans ton routeur, tu plantes la clé dedans, ciao bye, ton mot de passe, il se rend tout seul parce que la clé sert de moyen d'authentification. Puis là, tu peux l'opérer en mode administrateur, tu enlèves la clé, pouf. Puis ça, ou tu peux l'avoir en mode FIDO, là, mais là, ça, c'est une autre façon. Dans ton ordinateur, tu en fiche ta clé dedans, puis ça te permet de rentrer sur ton routeur, ça te permet de rentrer sur un équipement comme ça. stratégie qui c'est déjà pour le commun des mortels, puis même pour moi, pour tout le monde. Tu plugs dessus, tu fais tes trucs, tu l'enlèves, passe. T'as pas de mot de passe en ton intérieur, t'as pas de gestionnaire de clé, t'as pas de gestionnaire.
Je vais te faire une autre proposition, moi. Je vais te faire une autre proposition. Je trouve ça intéressant. On est des gars de sécurité. Oui, la YubiKey, c'était un maudit bon moyen. Un beau moyen physique. Autrement dit, il faut vraiment s'attaquer à nous autres, là, si on veut pénétrer dans le système, etc. Puis s'attaquer physiquement à quelqu'un, c'est pas tout le monde qui a le guts, là. Mais qu'est-ce que tout le monde a? Un cellulaire, un téléphone intelligent. S'il y avait une forme de pairage sécurisé, quand on acquiert justement un système, puis là, je parle d'un pairage sécurisé, j'ai dit sécurisé, autrement dit, un vrai pairage machine entre deux babelles, que ce soit avec une adresse MAC ou peu importe, une adresse physique qui n'est pas réplicable, je pense qu'on aurait un maudit bon compromis. Je pense qu'on a déjà eu un podcast là-dessus, justement, avec l'utilisation du cellulaire qui est très possible.
Je vais faire l'avocat du diable, puis parce que je l'ai vécu en entreprise. Quand on fait des déploiements massifs, disons, de MFA qui exigent le cellulaire, tu vas frapper tous les cas d'exception que tu penses qui n'existaient plus. Donc, tu frappes tous les gens. Puis là, moi, je suis en 2020. Moi, je suis persuadé qu'en 2020 que tout le monde a un cellulaire, que ça soit un flip, à la limite, ou un téléphone des plus modernes, comme moi, ce que j'ai. J'ai cette espèce de présomption. J'ai vu que ma présomption éclatait en miettes. Parce que j'ai constaté, pas un énorme pourcentage, mais il y en a quand même. Et étonnamment, ces gens-là travaillent en TI. Celle-là m'a encore plus flabbergassé, mais bon, chacun a ses concerns. Ouais. Mais ça l'a défait des présomptions puis des choses que j'avais, des préconceptions que j'avais. Okay. Là. J'étais, OK, bon, c'est bon.
Ça devrait être au moins une option privilégiée d'un pairage avec un téléphone intelligent d'une façon sécurisée. On l'a vu avec des produits. Ou sinon, ben, comme tu dis, le problème, c'est les mises à jour. Et on ne s'éternisera pas sur cette nouvelle-là, mais écoutez, on va parler de vos routeurs à maison. Nicolas l'a bien mentionné, là, les fameux Link 6, le fameux Link 6, je ne me souviens plus du numéro 54G, je crois, qui a été plus que largement répandu à partir du début des années 2000, à ce qui se détaillait à 60, je pense que c'est 90$, puis 5 ans plus tard, 60$. Oui, il y avait des mises à jour, mais tout le monde avait le même modèle avec le même mot de passe par défaut dans le même bloc appartement. Là, vous me voyez venir, Colin. Les personnes bienveillantes n'ont pas le souci de méfiance que le voisin a le même produit. Je me souviens d'un collègue où j'étais allé chez eux. Sa consommation explosait. Il y avait rien d'illimité à l'époque. Puis quand je suis rentré chez eux, je m'en souviens, je voyais la lumière. Elle clignotait pas la lumière. La lumière était en train de faire fondre le plastique. Elle était allumée non-stop. Par un petit twist, je vais vous avouer, j'ai été très chanceux à cause d'une photo. Le couple se souvenait plus du mot de passe. Je me suis douté que ça pouvait être le nom de l'animal. C'est niaiseux, ça a l'air d'être comme dans un film. Savez-vous quoi? Le mot de passe, c'était ça. Quand je suis rentré dans la machine, j'ai mis un mot de passe gras, long, large, puis épicé. Tout d'un coup, la lumière s'est mise à clignoter. Elle a arrêté de rester collée, là. Autrement dit, celui qui utilisait Napster, oui, je suis vieux, celui qui utilisait Napster dans l'appartement au-dessus, en haut, au nord, au sud, à gauche, à droite, je ne sais pas, il devait être mécontent. Alors, lui, il venait de perdre la capacité de téléchargement. Alors, mais bon. Mais c'est ça. Par défaut, IoT, c'est du IoT. Ça devient une faiblesse pour votre environnement. Télétravail oblige. Hein?
C'est ça, on est encore dans le temps, en plus dans cet univers-là. Fait qu'on ne se doute pas à quel point on est exposé. Puis. C'est même dans les objets qu'on n'y pense pas, mais là, tu peux peut-être avoir une app sur ton téléphone. Ouais. Yeah. Ça là est à voir. Là, je bascule sur une de tes nouvelles, ta nouvelle finalement.
Oui!
Et sur la chaîne logistique des virus, des vaccins pour la COVID-19 sont pour être attaqués.
Je vais vulgariser, je vais résumer. Dans les deux dernières semaines, on a eu des bonnes nouvelles sur les taux d'efficacité des vaccins. Une des bonnes nouvelles qu'on a eues, il y a une compagnie justement qui annonçait que pour le transport et la maintenance du vaccin, parce que vous savez que ça doit être les températures doivent être régularisées, autant dans le transport que dans la conservation et du délai pour lequel le vaccin peut rester actif dans un environnement avec température contrôlée. Alors IBM, puis merci IBM, a décelé une forme de campagne très massive dernièrement qui ciblait la chaîne d'approvisionnement pour le transport des vaccins. Là, je ne parle pas de la conservation, mais je parle vraiment du transport des vaccins. Pour les vaccins notamment, pour lesquels des températures de moins 70 degrés doivent être observées pendant le transport. Et puis là, on parle d'énormément de pays. Étrangement, il y a un pays en particulier qui est dans la course au vaccin, mais qui n'apparaît pas dans cette liste. Et puis, la chaîne d'approvisionnement, on parle ici de phishing, donc d'employés qui sont attitrés à ce processus-là. Du spare phishing, autrement dit des gestionnaires qui ont autorité de prise de décision. Oui, merci Nicolas Dugest. Alors, IBM a fait un petit rapport, un bon rapport. Je trouve que c'est une belle initiative là. Alors, IBM, puis ça flash là, IBM X-Force qui s'appelle Nice, le groupe de travail consacré à cyber. Il vient d'émettre un rapport qui, il semble avoir décelé justement une grosse campagne cyber, phishing, spare phishing, au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Pour déstabiliser probablement des gros noms de producteurs du vaccin pour justement l'état actuel des choses là, dans le monde. Là. Ce que je trouve un petit peu déplorable, parce qu'on parle de... Bon, en fait, là, présentement, on ne parle pas de vies humaines. Là. Les vies humaines, c'est collatéral dans le dossier, mais on parle ici... Je vais reprendre un élément du NIST, là. C'est qu'à un moment donné, on a un retour à la normale après un incident. Mais là, ce vecteur-là, c'est un vecteur qui est déclencheur d'un retour à la normale présentement pour être retardé au niveau de la chaîne à cause de cette attaque-là au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Vous irez lire, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Pfizer, BioNTech, sont notamment des deux producteurs pour lesquels le fish, la cyberattaque là, est plutôt visée là.
Mais c'est ça, les criminels. D'entrée de jeu, on a mentionné justement que le crime est en pleine croissance, c'est une business. Et c'est rendu un peu déplorable qu'on maintenant s'attaque à des choses qui sont perçues comme fondamentales pour la vie, en tout cas la stabilité mondiale à ce moment-ci, pour nous sortir d'un espèce de marasme aussi là, qui est assez important. Là. Les gens sont très malheureux ces temps-ci parce qu'on est confinés, parce qu'il n'y a pas de vaccin. L'arrivée
de Noël.
Justement, le premier ministre a décidé d'annuler Noël. Malheureusement, avec raison dans ce contexte-ci, là, parce que l'infection, la propagation s'en va quasiment hors contrôle au Québec. Donc, puis ça va, de tout ce que je vois ailleurs, ça c'est pas mieux non plus. Là. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas parce que c'est l'hiver qui arrive, puis là on est plus propice bon, à l'attraper.
Puis vous savez, je vais être prudent, là, je veux pas nommer de nom de pays, discriminer quoi que ce soit, c'est marqué dans l'article. Il y a de l'argent à faire, mais c'est probablement pour déstabiliser des compagnies pour lesquelles un autre pays qui produit également un vaccin pourrait bénéficier justement de ce bris dans la chaîne d'approvisionnement, justement, et par conséquent, finir par faire plus d'argent. parce qu'à coup de millions de doses qui ont été commandées d'avance, les coûts de financement, il y a beaucoup de pièces à perdre. C'est des compagnies, pour la majorité, cotées en bourse. Beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de spéculation à la baisse pourrait justement survenir. Beaucoup de perdants collatéraux dans ce dossier-là, si jamais ça s'avérait justement fructueux pour les pirates, non, de scraper justement la chaîne d'approvisionnement. En fait, on parle pas de scraper les camions qui maintiennent ça à moins 70. On parle de négocier avec les acteurs qui doivent s'assurer du climat propice pour le maintien du vaccin à changer justement les températures ou à défier ce qui est proposé dans la notice initiale envoyée par le patron.
Oui, ben en tout cas, bref, tout ça est excessivement malheureux et très triste comme nouvelle de voir qu'on est, que l'humain n'est pas mieux que ça, mais qu'il court après la pièce, même si c'est au détriment de la vie de ses... C'est semblable, c'est assez terrible.
Un grand sage m'a déjà dit, la première chicane de frontière qui a débuté, c'est lorsque le premier être humain a décidé d'ériger une clôture autour de sa propriété.
Oui. Oui. C'est un lieu de... Tous ceux qui sont propriétaires d'une maison et d'un terrain peuvent savoir à quel point, justement, le maintien de ces dites limites-là peut se présenter problématique avec l'entourage.
Ouais. Un autre grand sage m'a aussi dit, dans le doute, frappe le premier.
Conseil qu'on ne recommande pas puisque ça peut amener à d'autres situations
matérielles, oui.
Mais
voilà.
Faut prendre ça avec un grain de sel.
C'est cela.
Au cas où que les gens n'auraient pas compris l'humour de ce que c'est. Je vais aborder une dernière nouvelle plus négative, disons, plus criminelle et ainsi de suite. Alors ça, il y a un virus qui court sur les Mac. Puis ça, c'est une nouvelle que j'ai pris parce que j'ai trouvé ça très important parce que les gens sur Mac vivent encore et ont la perception qu'il y a peu ou pas de virus qui s'adresse à eux autres. Ce n'est pas vrai. Il y a des virus. Ils s'en viennent de plus en plus méchants parce que les malveillants ont compris que les gens qui utilisent des Mac, c'est rendu très fashionable. Là. C'est très chez les hauts dirigeants, les gens qui ont des moyens, des gens qui ont sûrement généralement plus d'argent parce que les appareils de base coûtent un peu plus cher que ce qu'on va retrouver. Donc, tout ça inclut fait que ça devienne des cibles d'autant plus intéressantes. Par contre, ce virus-là, comme la plupart des virus sur Mac d'ailleurs, exige une action de l'utilisateur. Et c'est là que ça devient très important d'être vigilant, de ne pas ouvrir des fichiers de personnes qu'on ne connaît pas, de ne pas cliquer sur des liens que vous avez de personnes qu'on ne connaît pas, qui pourraient nous amener dans une situation problématique. Puis c'est valide sur PC Mac, là. Dans ce cas-ci, ce virus-là, lui, il agit comme ça, puis la plupart sont comme ça. Les plus grosses vagues à l'heure actuelle, le Emotet, Trickbot-Ryuk, s'appuient énormément sur justement de tromper l'utilisateur, de cliquer sur un lien, ou d'ouvrir une pièce jointe, un document Word, Excel, qui est infecté. Donc, c'est comme ça qu'ils amènent, comme ça, ça prend nécessairement une intervention de l'utilisateur. Les propagations automatiques au vert qu'on connaissait il y a des débuts des années 2000 sont beaucoup moins courants. Ça utilise peut-être que c'est le vecteur, comme la COVID, c'est l'humain qui propage et qui distribue ça à qui veut bien l'avoir. Donc, juste d'être prudent là-dedans. T'as l'air de vouloir intervenir? Ou c'est juste
une
pause de grand sage?
Non, j'ai une image. Tu sais, avec l'âge qu'on a, là, moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'on a une belle... Comment je dirais ça? Je veux pas dire compétence. Je veux pas dire expertise. J'ai pas envie d'être arrogant. Mais, tu sais, on a connu, Nicolas, l'arrivée du VIC-20, du Commodore, du TRS-80. Du 80-86, du 80-84, pardon, le 80-86, le 2, le 3, le 4, puis tout d'un coup, le Pentium, la division par zéro qui est problème. On a connu ça, on a grandi là-dedans. On a été cons là-dedans au début, puis à un moment donné, on est devenu bon là-dedans, la compréhension. Quand tu mentionnes justement que ça demeure quand même l'humain, le principal, déclencheur. C'est pas le, j'appellerais pas ça le vecteur. Là. Le vecteur, c'est d'entrer en communication avec l'humain qui va déclencher l'action. Je pense au bon vieux Terminator 1984, où qui était un petit peu complexe, un film d'action au départ, là, avec Arnold qui arrive du futur puis qui tue plein de monde. Mais quand tu te mets dans les yeux d'adulte et à réfléchir, c'est tout simplement une intelligence artificielle qui a décelé que tout simplement l'humain était voué à sa propre extinction. Fait que la façon dont tu mentionnes ça, c'est comme si c'est tellement années 80. Ces problèmes-là, c'est tellement drôle, c'est tellement années 80. Ça fait poche de dire ça de même, là, mais
ouais.
C'est tellement la meilleure méthode.
Ouais.
C'est tellement la faiblesse appropriée. C'est tellement années 80. C'est épouvantable, là. C'est ça le petit sourire que j'avais en coin, là. Puis il y a des visionnaires. Il y a des visionnaires scripteurs de films à l'époque qui avaient déjà décelé ça. Asimov l'avait fait. Kubrick l'avait ultra bien exploité dans 2001, Odyssée de l'espace. L'intelligence artificielle ne peut pas même pas faire confiance à son concepteur, à son Dieu, en fait, à cause justement de ses faiblesses.
Oui, effectivement, surtout dans l'œuvre d'Asimov, ben, tu as plein de notions qui deviennent absurdes parce qu'ils se protègent et ainsi de suite. Là. La science-fiction a expiré énormément ça, mais oui, l'humain est son pire ennemi dans le contexte. Comme dans le cas de la nouvelle sur la COVID, ben, on est notre pire ennemi parce qu'entre nous, pour le dollar, on est prêt à pénaliser des gens d'un accès d'un vaccin qui pourrait sauver des vies, puis même aussi probablement sauver l'économie. Puis là, ben, là celle-là, ben, ce même vecteur-là, ce même déclencheur-là. Je préfère effectivement ton terme là-dessus, c'est un peu moins grave et solennel sur la façon que c'est. Fait que c'est toujours d'être prudent, puis on revient toujours, soyez prudent. T'sais, c'est un peu comme le virus I love you, qui était justement basé, c'est un des premiers qui utilisait ces stratégies-là de d'envoyer un courriel qui te faisait croire que tu avais reçu quelque chose qui te rendait heureux, en ce cas-ci, elle l'a vu. Puis en ouvrant le document Word, ben, tu t'infectais et tu te propageais le bonheur à tout ton entourage.
Dis-moi donc, rappelle-moi donc, I love you, on parle des années 99-2000?
Oui.
Parfait. Je ne vous dirais pas à quel endroit je travaillais à ce moment-là, c'est en Europe. J'ai une collègue. Souvenez-vous, à l'époque, c'était Windows 98. Windows 98 avait la capacité. Windows 98 avait un fameux MBR, hein, le Master Boot Record, et il y avait la base de données initiale système. Ce qui veut dire que la base de données initiale au démarrage de la machine partait de l'ancienne bonne base de données du système pour le démarrage. Puis à la fermeture, faisait un backup, justement, de la base de données système. J'ai une collègue qui m'a appelé en disant que, après avoir reçu le courriel, ouvert la pièce jointe, tous les maudits fichiers qu'elle ouvrait se transformaient en JPEG, mais Windows Paint est incapable d'ouvrir les images à ce moment-là. Alors, en regardant la lumière du disque dur collée, j'ai eu un doute. Alors, par méfiance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le courant électrique derrière la tour. Oui, vous savez, une tour, là, c'est un ordinateur à l'époque qui pesait à peu près 14 livres. Ça avait à peu près 5 pouces par 12 pouces par à peu près 8 pouces de profondeur. Mais bon, non, j'ai, là. Et puis, dans ma logique, je me suis dit, je suis convaincu qu'au niveau du MBR, il a protégé les fichiers système. Fait qu'en remettant le courant électrique, en redémarrant la machine, je vous confirme que la machine a super bien redémarré. Et puis, on a vu dans les fichiers, C/Windows/système, à l'époque, système 32 n'existait pas, by the way, il y avait à peu près 12-13 000 fichiers, ce qui était anormal parce qu'il y en avait à peu près 1 000-1 200 à l'époque, mais il y avait 12-13 000 fichiers avec un paquet de JPEG à 0 KB dedans, 0 kilobit. Puis c'est là où je me suis renseigné. Autrement dit, en tirant sa plug, quand le système a redémarré, il a pris la dernière copie du bon système qui était dans le MBR. Ça l'a bien redémarré. Puis j'ai regardé le courriel. Puis oui, c'était le fameux « I love you ». Fait que j'ai sauvé la vie de ma collègue. Mais en fait, je n'ai pas sauvé la vie. Je me suis sauvé de l'ouvrage. Plus que d'autres choses. Parce qu'il aurait fallu que je refasse une machine avec des gros yeux méchants puis une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que j'aurais tout perdu ses affaires. Mais bon, c'est elle qui a cliqué, pas moi. Ouais. Mais bon, c'était une anecdote, mais je me souviens de ça.
Ah ben moi, à cette époque-là, pour l'entreprise que je travaillais, on avait débranché l'Internet.
Hey, comment ça?
C'était quand même une grosse entreprise. Fait qu'on a débranché l'Internet justement pour bloquer la transmission. Le temps qu'on reprenne contrôle et puis qu'on fasse l'état des lieux. Mais tu sais, c'était à l'époque où tu débranchais l'Internet, elle était sans conséquence. Bon, en tout cas, toute chose relative par rapport à maintenant, non, débrancher Internet, c'est que tu peux pas aller voir ton site de nouvelles puis tes courriels extérieurs rentraient plus. Et c'était à peu près tout. Puis il n'y avait pas de système critique, rien qui dépendait de ça. Là, puis on parlait pas du réseau.
Les gens utilisaient le téléphone pour appeler en cas d'urgence si ça répondait pas.
Le téléphone était très utilisé. C'était l'époque des ICQ, début des MSN, dans ces eaux-là. Fait que c'était pas encore très dépendant de nos...
Des
courriels. Le BlackBerry n'était pas une notion très, très chose. Il y avait les Pagets qui étaient utilisés à ces époques-là. Là. Donc, bref, c'est un autre univers, mais on avait débranché. Fait que ça avait stoppé parce qu'on avait pas embourbé notre système de courriel avec ça. Parce que naturellement, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont cliqué sur le chose. C'est inévitable. Puis tu sais, ça date de quand même plus que 20 ans. Puis les gens continuent à cliquer encore.
Ben c'est ça. La sensibilisation n'existait pas à l'époque. Sensibilisation
existe. Pas comme elle est maintenant, mais en même temps, l'efficacité qu'on en a maintenant, elle est-elle réelle si on compare les actions puis ce qui se passe versus... des questions. Peut-être que les humains sont pas capables. Moi, je dis que ça prend une génération. Ça prend 25 ans à changer les habitudes des gens. C'est une génération. Fait que,
ben, ouais. T'es tough, sa génération. Moi, une génération, pour moi, c'est 15 ans, là, pas 25.
15 ans, bon, 15 ans.
Alors, 25, c'est bon. Moi, j'achète ça. Alors, je t'agace.
Bref.
Mais.
Ouais, je m'assieds pas sur ça, gars.
Mais c'était une belle époque. C'était quand même une belle époque. On était en apprentissage, ça commençait, l'argent n'était pas convoité à l'époque. Ça fait I love you, tu l'as connu comme moi. Il n'y avait pas d'argent là. Il n'y avait pas d'argent au bout là. C'était juste je suis con, je veux faire le mal, je pitch.
De toute façon, c'est plutôt récent. L'aspect criminel et monétaire du volet de cyber, parce que c'est pas si longtemps que ça qu'ils tirent de l'argent. On pourrait dire à peu près plus ou moins 5 ans, là, où il y a une vraie professionnalisation, là, mais vraiment marquée. Il y a sûrement des gens qui vont me dire que ça fait plus ou moins, whatever. Mais à peu près dans ces eaux-là, où on a commencé à voir vraiment des groupes organisés arriver, puis vraiment vouloir extraire de l'argent. Et là, c'est rendu une plaie parce qu'on est rendu rendu au top de la courbe, puis qu'on va juste en descendre après parce que c'est vraiment juste l'asile de pourfendre le malveillant.
Hey, puis ça vient de me faire penser. Excuse-moi, Nicolas. Continue ta chronique.
Ah, d'accord. Parce que tu réfléchis.
Non, je fais une recherche. J'avais promis aux gens la semaine passée que j'allais leur revenir avec. Un documentaire que j'ai vu à Télé-Québec.
Parfait. Ben on a juste dans les show notes. Moi, la suite à ça, c'était d'aller vers des moyens défensifs plus modernes et plus efficaces face à ce genre de choses-là. C'est rendu dans le jargon populaire. On parle de zéro trust, confiance zéro, ou toutes ces technologies-là associées NSX chez VMware, AC, chez Cisco, sont maintenant répandues. C'est vraiment, on en parle beaucoup. Gartner parle de Carta. Forrester parle de zéro trust, je crois. Ces groupes, ces façons, ces approches-là changent nos structures et font justement que tout ce qu'on a discuté précédemment se trouve à être limité ou complètement bloqué puisqu'on renferme l'information ou le plus petit élément possible. C'est-à-dire que mon ordinateur ne peut communiquer avec des choses autorisées. Donc, en limitant toute cette approche-là, on se trouve à limiter les problèmes parce que puis là, ça arrive au fait que les humains seront toujours des humains. Donc, si on ne les protège pas contre eux-mêmes, puis le Zero Trust, c'est une stratégie intéressante. Difficile à déployer, mais quand même, puis j'imagine, dans un contexte domestique, ça va être juste l'asile. Ça serait un bon test à faire, mais en tout cas, dans un contexte domestique, mais ça viendrait dans un univers où tous mes équipements, même s'il y en a un qui brise, n'entraînerait pas le restant de mon réseau domestique à me compromettre, à faire fuiter mon information, à nuire à mon bonheur numérique. Parce que là, on est tous rendus dans cet univers-là. Nos enfants le font, tout le monde est là, tout le monde travaille, tout le monde fait ça là-dedans. Là, fait que c'est la réalité du monde dans lequel on est présentement.
Écoute, je l'ai trouvé. Puis je vais te dire quelque chose de bien drôle, Nicolas. Non, bien plate, mais que tu vas rire. Les gens ne te verront pas. L'ordinateur que j'utilise, en fait, première des choses. Chercher voleur d'identité Télé-Québec. C'est le reportage que j'ai regardé il y a un mois par Nadé, qui était à Occupation Double. Très bonne, by the way, pas enquêteur, disons, mais comme intervieweur, est vraiment très bonne. C'est bien vulgarisé. C'est vraiment voleur d'identité à Télé-Québec. Le truc comique, l'ordinateur à ma blonde, il est vieux. Il y a un Windows 7 dessus. Puis je viens de comprendre pourquoi il y a des pages qui ne veulent pas s'afficher. Vous savez, il y a des nouvelles normes, notamment, je crois, TLS, etc. Puis il y a des mises à jour plus disponibles. Et puis là, je vois Nicolas en train de rire. Là, je viens de comprendre pourquoi j'ai de la misère quand les... avec
ça. Il y a des certificats qui ont été déprécaits récemment. Il y a des certificats qui ont été déprécaits récemment. Fait que...
Top,
là, t'es dans la merde, là.
Puis, c'est ça. Puis, ma blonde, à l'époque, elle n'a pas bénéficié de la mise à jour gratuite à Windows 10, bien entendu. Fait que là, faudrait trouver.
Il me semble que, ouais, ben, je sais que Windows, Internet Explorer, maintenant, c'est rendu Edge. Ils ont terminé, Explorer 11, c'était terminé, je pense, il y a des jours d'enregistrement, là, dans cet entourage-là. T'es pas capable de faire avec ça, t'es vraiment.
Non! Edge rouvre pas, puis Chrome rouvre pas, puis je viens de comprendre pourquoi.
Ah.
Je viens de comprendre pourquoi. Non, il va falloir trouver une autre. Je vais trouver une autre subterfuge. Je vais trouver un nouveau subterfuge pour bypasser les refus du Windows à ma blonde.
Ah.
Non, je parle pas de piraterie ou de quoi que ce soit, là. Mais on va trouver une autre méthode, là. Mais effectivement, je viens de comprendre pourquoi. Alors. Désolé, l'entrevue s'appelle Voleur d'identité Télé-Québec avec des vrais criminels. Les reportages sont très bons, c'est très court, c'est pas long, ça explique vraiment les motivations des voleurs d'identité, ce qu'ils peuvent faire avec, pourquoi ils le font. Oui, certains disent qu'ils se sont repentis après leur séjour en prison parce que bien entendu, la prison vous attend si vous cherchez surpris l'identité. Nicolas, Nicolas et moi, on vous le dit, on est surpris l'identité de quelqu'un pour de l'argent maintenant, pas pour autre chose. Parce que c'est vraiment, qu'est-ce que ça va me donner? T'sais, ultimement, c'est qu'est-ce que ça va me donner? Puis ce qu'on veut, c'est de l'argent. Fait que c'est très bien présenté, puis j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça le fun. Même si c'est des éléments que je connaissais déjà, c'est de voir justement des vrais bandits sous le couvert de l'anonymat, mais là, ben, heureusement, là, expliquer dans leurs mots pourquoi ils le faisaient. Alors voilà.
Oui, ben c'est important de voir ça. C'est important aussi que de sensibiliser les gens, parce que je pense que tu l'avais dit lors de l'épisode, il y a une certaine forme, les gens ne mesurent pas l'impact. Il y a un drill, puis il y a pas quelque chose. C'est important qu'ils mesurent aussi ce genre de choses-là, puis qu'ils comprennent.
Vous savez, il y a les 7 attitudes hein, au niveau d'un fraudeur. Pour qu'il puisse passer à l'acte, il y a 7 degrés d'attitude selon, je vais dire, les Big Four, du temps que Nicolas et moi travaillaient pour les Big Four, pour en arriver là, autrement dit, pour s'auto-justifier d'en arriver là. Et c'est pas différent pour les voleurs d'identité. Il y a un gain. Puis pourquoi ce gain? Ben, basé sur notre situation. On est lésé, on a des faiblesses, on veut de l'argent, etc., etc. C'est, je pense qu'au niveau de la gestion de risque, sur la fraude, les indicateurs justement d'un fraudeur, c'est pas très changeant. Les Big Four, les compagnies comptables là, que je veux parler, l'ont très bien perçu, puis c'est transcendant dans le temps. Ça revient tout le temps aux mêmes raisons. C'est pour s'auto-justifier justement là. Puis c'est la même chose que vous allez revoir là-dedans. Ben, ceux qui connaissent un peu plus le sujet, vous allez bien reconnaître. Ceux qui connaissent moins le sujet, ben vous allez apprendre justement que ces gens-là, au départ, ils attaquent le système, hein? Ils lèsent pas la personne pour laquelle il y a surplus d'identité. C'est le système qui attaque et c'est un challenge qu'ils se sont infligés pour aller plus loin et plus loin et plus loin, sans se soucier justement des conséquences, des dommages collatéraux qu'ils créent là. Nicolas l'avait bien dit la dernière fois. Avec les cyberassurances qui existent, celui qui est lésé perd pas son argent, la banque qui s'est faite frauder récupère son argent, puis l'assureur va augmenter ses primes, puis ça va prendre, c'est pas long. Les actuaires sont très bons là-dedans, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais les actuaires, puis de toute façon, la vocation d'une compagnie d'assurance, c'est faire de l'argent, là, c'est une business, ils vont récupérer l'argent quelque part. Tout le monde, personne, aucun client de la compagnie d'assurance va être lésé de toute façon dans le dossier, bien entendu. La récupération d'argent, on dirait que c'est l'élément le plus simple à gérer dans tout ce système-là. Mais au final, le bandit va en prison, mais la personne fraudée se retrouve avec des dommages collatéraux. Mais entre les deux, l'institution qui se retrouve entre les deux trouve éventuellement son compte aussi, là. Mais bon.
Ouais, ben c'est un peu ce qu'on parlait, je parlais au début, la quantité d'argent qui est maintenant drainée par le crime, que ce soit le crime organisé ou le crime à plus petite échelle pour ces gens-là qui soient sur un trip ou le fond, là, c'est en soi rendu une plaie là, pour nous. Mais c'est ça. Non, c'est bien. Ce reportage est intéressant pour éveiller les conséquences réelles de ce qu'on pense qui est virtuel. Les gens ne mesurent pas la pleine.
Puis je vais faire une petite apostrophe. Pour ceux qui s'intéressent, allez vous renseigner sur les éléments qui sont couverts par une cyberassurance, autant personnelle que commerciale pour une entité. Vous allez être surpris. Dites-vous une chose. Identité usurpée, terminée. C'est pas une assurance qui va couvrir ça. C'est usurpé, c'est final, c'est point barre, c'est plate, mais c'est arrivé. Et ça ne se corrige pas. En fait, ça se corrige pas, ça se rectifie, mais partiellement. Une entité, c'est le même scénario. Puis c'est pas une question que l'assurance est pas bonne ou quoi que ce soit. Au contraire, les assureurs sont très bons au niveau de la cyberassurance. Ce qu'on va chercher à faire, c'est que votre identité a été usurpée. Ça se corrige pas. C'est terminé. C'est usurpé. Ils vont l'exploiter puis ils vont saigner votre identité jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'âme ou quoi que ce soit à faire avec. La compagnie d'assurance va vous aider au niveau d'assurance à rétablir votre crédit, ça c'est tough, mais rétablir votre crédit en rehaussant votre réputation, vont vous accompagner au niveau du temps consacré, vont rembourser le temps consacré à faire les démarches, donc l'annulation des cartes de crédit, les appels dans les différents fournisseurs, le rétablissement. On va parler ici d'un taux horaire moyen pour le rétablissement de votre réputation au niveau du crédit auprès de vos différents fournisseurs. Encore là, je l'ai dit, l'identité a été usurpée, ils sont en train de la saigner pendant ce temps-là. Mais là, on va parler du temps consacré à donc un taux horaire, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une forme de retour à la normale. Là, on parle de vous et moi, là, comme consommateurs. Mais le mal est fait, ce mal-là ne se corrige pas. Fait que c'est très, très explicite, puis c'est bien expliqué dans... c'est pas très bien expliqué dans les clauses, c'est peut-être pas très bien expliqué quand on vous vend ce produit-là, mais lisez quand vous prenez ce type de produit-là, ça ne rétablit pas votre identité, c'est pas vrai. Elle est volée, c'est la fin. Changez pas de nom, ça n'en a rien, mais c'est la fin. Une compagnie, c'est le même scénario. On va parler d'une gestion d'incident de sécurité, fait que toutes les démarches et les dollars entrepris jusqu'à un rétablissement, on va dire, jugé adéquat par la haute direction, commence à coûter. Mais la perte de réputation, elle est là, point à la ligne. Fait qu'il faut bien comprendre, quand on prend ces produits-là, si jamais ça vous arrive, c'est quoi les démarches, c'est quoi les impacts. C'est très énergivore. Une fois qu'on s'est fait voler son identité, psychologiquement et physiquement, d'accepter de mettre en marche la machine de rétablissement jusqu'à ce qu'on arrive à rétablir votre identité à un niveau jugé, disons-le, acceptable. Si je parle quasiment en termes d'audi, là, ramener un risque à un niveau jugé acceptable, by the way, mais le mal est quand même fait. Hein? Votre identité elle a été usurpée. Peut-être qu'il n'est plus exploitable, mais le mal est fait. Fait que je pense que les compagnies qui offrent ce type de cyberassurance deviennent de plus en plus bons dans le domaine, sont très bons pour vous accompagner, mais aussi sont très bons dans les avenants, dans les primes. Ce n'était pas cher jusqu'à là, 2-3 ans. Il y a une explosion, hein. C'est de plus en plus cher, ce type de prime-là. Et puis, faites attention aux exclusions. Il y a des éléments qui ne couvrent pas. Fait que bien lire les caractères. Moi, je suis un praticien. Alors, je prêche par l'exemple. Autrement, je pose mes questions en faisant des simulations. Puis, ça me donne des meilleures réponses à ce moment-là. Là. Mais on est rendu pas mal bon là, dans le domaine de l'assurance pour offrir ce type de produit-là. Mais encore là, ça a ses limites. Là.
Ça répare le agrément, mais ça répare pas le dommage qui est fait. Là.
Je viens de faire un beau pitch de vente pour le produit.
Clairement. Mais de toute façon, puis c'est une des choses qui va arriver, les assureurs vont obliger les compagnies à se sécuriser avec un baseline minimal, peu importe qu'on prenne une norme ou tout ça. Et c'est ça qui risque d'arriver parce que si tu veux te faire assurer, il va falloir que tu respectes. Ils vont faire comme installer les systèmes dans ton auto là, qui vérifie si tu conduis un bon conducteur. Mais ils vont installer une sonde dans ton entreprise puis ils vont vérifier que ton réseau est là, atteint le minimum conforme. Puis si tu es en bas du minimum, mais tu perds ton accessibilité de ton assurance. Donc, c'est à toi à toujours t'assurer que tu es toujours au niveau de ton minimal de ton assureur.
C'est okay. Donc un bon point que tu viens d'amener là, Nick. Oui, pour les entreprises qui veulent faire l'acquisition d'un tel produit, il va y avoir une analyse d'écart qui va être faite au sein de votre entreprise. Ils vont venir évaluer ce qui est attendu comme contrôle minimaux puis ce que vous avez. Donc, avant de souscrire à un tel produit, ils vont vous proposer un rehaussement selon les écarts ou une augmentation des primes à cause de l'augmentation du risque, tout simplement. T'as raison, Nick. Hey, c'est vrai. J'ai assisté à une conférence avec un ami commun qui exposait ça, justement. Je vous l'ai dit, les compagnies d'assurance commencent à être bons dans ce domaine-là. Donc, ils se protègent. Mais savez-vous quoi? Quand ils veulent se protéger, puis ça fait pas votre affaire parce que ça va coûter des millions, c'est parce que ils viennent de vous donner un bel indice là, que probablement que vous êtes à risque. Puis si ça vous arrive, vous n'êtes pas intéressant à assurer. C'est un indice, ça, qui veut dire c'est le temps là, de mettre de l'argent dans la cybersécurité, justement. Pas de dépenser des millions, mais laissez la compagnie d'assurance faire l'analyse des cartes. Ça va vous donner la recette. Ça va vous donner le budget. Ça va vous donner un indice. Ils sont bons là-dedans, là. Faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Puis assurez-vous d'avoir les bonnes compétences aussi à l'interne pour assurer de rehausser vos faiblesses, justement, là. Mais c'est un bel exercice.
Ben, selon moi, ça va mettre à un niveau minimum qui est meilleur que ce qu'on a actuellement, là. Un peu comme PCI DSS a rehaussé le niveau général de sécurité des commerçants qui étaient par manque d'intérêt et qu'on pourrait considérer plus négligent par ça d'un œil d'un praticien. Mais ça leur a monté. Mais sauf que là, tu sais, mais c'est pas la conformité à PCI qui amène la sécurité. Parce que la conformité n'amène pas la sécurité. Au moins, la conformité amène un niveau, rehausse le niveau général, donc un bénéfice, même si c'est pas parfait. Fait qu'il faut s'en servir comme levier pour atteindre des objectifs de sécurité supérieure.
Puis PCI, je le sais pas, mais j'ai l'impression qu'avec la pandémie, il y a une coupe de postes de QSC qui doivent être ouverts à gauche et à droite. Je dis ça de même, là. QSC, c'est le titre de l'auditeur spécialisé pour la norme PCI-DSS, donc le fameux paiement par carte de crédit, le paiement en ligne, etc. Transaction par carte de crédit, on va parler de Mastercard, American Express, puis Visa. Il y a des normes. Ça fait longtemps que ces normes-là sont établies parce qu'il y a des risques. Et puis, c'est ultra contrôle. C'est ultra TI. Ah, puis by the way, c'est ultra clair. C'est pas parce que j'en ai déjà fait, mais c'est ultra clair. Puis c'est un maudit beau cadre de contrôle. Puis si vous appliquez ça à l'ensemble de votre entité, pas juste le périmètre PCI-DSS, l'ensemble, wow! Là, vous venez de rehausser, comme Nicolas vient de dire, là, vous venez de rehausser la qualité de vos contrôles, l'efficacité, puis votre protection, là. C'est une maudite belle, ça vient rehausser votre réputation en termes de protection des renseignements, point. Protection des renseignements de transactions par carte de crédit, protection de renseignements, appliquez ça à vos protections de renseignements personnels, gestion de vos données, moi, etc. Mais bon, on s'éloigne.
On s'éloigne beaucoup, puis tu vas repartir parce que si on va prendre des cas de contrôle comme le NIS 800-53, par exemple, quand on est conforme à ça, on va être conforme à PCI parce que maintenant, tous ces contrôles-là se trouvent être normalisés. Fait que là, dans le fond, PCI est un sous-ensemble qui règle pour les problèmes des marchands. Mais effectivement, si on applique les contrôles qui sont là, tu sais, c'est pas des contrôles, il y en a qui sont peut-être plus dégradables que d'autres, mais tu sais, c'est un antivirus à jour sur les postes, une ségrégation, fait qu'un peu un zéro trust, mais moins efficace. Dernière version supportée. C'est toutes des choses qui sont relativement de base qui font passer maintenant ce qu'on pourrait considérer de l'hygiène de base, de toute façon. Puis de mon expérience, là, j'ai continué à dévier. On parle d'hygiène de base, puis je le vois souvent en entreprise. Les gens ont tendance à oublier l'hygiène de base, puis s'intéresser aux données gizmo à la mode. Fait que les données flashbang, de choses trippantes, tout ça, puis ils vont oublier de couvrir les bases. Puis un PCI, un petit PCI, une petite chose de PCI te ramène sur tes bases. Mm. C'est important d'être contrôlé parce que si ça, c'est pas bien contrôlé, le restant, comme une fondation d'une maison, va s'écrouler plus facilement. Ouais. Ça. C'est un peu comme ça. Ouais. Sur ça, on va terminer l'épisode parce que là, on a dévié vraiment, vraiment, vraiment en trop. Puis j'ai dû escamoter des nouvelles parce que justement, on est allé encore sur la slide. Fait que je vous souhaite une excellente semaine en sécurité.
Oui, moi aussi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais dire comme Nico, on va quand même avoir un beau Noël, mais lavez-vous donc les mains, s'il vous plaît, pour que ça aille en s'améliorant. Le vaccin s'en vient. À un moment donné, ça n'a pas le choix de diminuer.
Oui.
Voilà.